RFI, grand reportage.
Sonia Ghezali.
Cet été, RFI vous propose la rediffusion de nos meilleurs grands reportages. Aujourd'hui, c'est une enquête sur les LGBT qui ont dû quitter leur pays en raison de leur orientation sexuelle. Des lesbiennes, des gays, des bi et des transsexuels dont la vie est menacée dans leur pays natal. C'est le cas en Ouganda. Le 24 février dernier, le président Yoweri Museveni a signé un décret qui punit l'homosexualité jusqu'à la prison à vie. Au Cameroun, une vingtaine de présumés homosexuels sont emprisonnés à Yaoundé. Dans d'autres pays, ces personnes sont menacées par leur propre famille ou par la société. Risquer sa vie en restant malgré tout ou choisir la voie ardue de l'exil par voie légale, ce sont deux choix qui s'offrent à elles. Et même lorsque ces personnes sont loin de chez elles, en sécurité, parler de leur orientation sexuelle, de cette intimité qu'elles ont dû cacher dans leur pays, reste particulièrement douloureux. Véronique Guémard.
En Ouganda, la chasse aux sorcières a commencé bien avant que le président ne signe le décret punissant sévèrement l'homosexualité. À 29 ans, Joël est arrivé à Paris en juin dernier avec deux amies lesbiennes. Tous militaient dans une association pour les droits LGBT, lesbiennes, gays, bi et transsexuels en Ouganda. Leur vie était menacée.
Nous avions fait un spectacle au Théâtre National et la police a fait une descente. Ça a été repris dans les journaux, à la radio, à la télévision. Du coup, nos familles ont su quelles étaient nos activités alors qu'elles n'étaient pas au courant. Nos voisins, nos collègues de travail, tous. Des gens voulaient me tuer. Ils pensaient que je recrutais des jeunes pour promouvoir l'homosexualité. C'est devenu très dangereux pour moi. C'est pour ça qu'on a dû partir.
Arrivés à Paris, ils ont rempli un formulaire de demande d'asile. Et il a fallu attendre. Attendre un rendez-vous à la préfecture, puis un rendez-vous à l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, qui doit examiner leurs demandes. Pour se loger, se nourrir, s'informer sur leurs droits, ils peuvent compter sur des particuliers, des réseaux associatifs qui travaillent sur des questions d'orientation sexuelle, comme l'ARDIS, l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour. L'ARDIS a une permanence à la mairie du 10e arrondissement à Paris. Frédéric Chaumont est le coordinateur de l'accompagnement de l'asile.
C'est ici que nous accueillons les demandeurs d'asile pour des entretiens visant à préparer leur demande d'asile.
Et la plupart des demandeurs d'asile LGBT viennent de quel pays ?
Majoritairement des Africains, d'Afrique subsaharienne, mais aussi de plus en plus depuis quelques années des demandeurs d'asile qui viennent d'Asie, notamment du Bangladesh, du Pakistan. Beaucoup de Mauritaniens, beaucoup de Guinéens, beaucoup de Sénégalais, de Camerounais, beaucoup d'Ougandais aussi, avec les problèmes qu'il y a au Cameroun et en Ouganda, c'est une demande d'asile qui est en augmentation. Et puis aussi encore, toujours, beaucoup de gens de l'ex-Union soviétique, d'Asie centrale, d'Azerbaïdjan, d'Ouzbékistan, de Russie bien sûr aussi, d'Arménie, de Géorgie, toujours.
Décision de l'OFPRA qui est une bonne nouvelle.
Ce jour-là, un Bangladais arrive en apportant une bonne nouvelle. Il vient de recevoir le matin même la réponse positive de l'OFPRA pour sa demande d'asile.
Voilà, décision d'admission au statut de réfugié. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, monsieur, je ne donne pas son nom, est placé sous la protection juridique et administrative de l'Office. Voilà. Bah, félicitations. Congratulations.
Congratulations to you.
Welcome in France.
Thank you.
As a refugee.
Le dossier de son ami pakistanais, en revanche, a été refusé. La particularité des demandeurs d'asile LGBT, donc lesbiennes, gays, bi ou transsexuels, c'est qu'ils ne peuvent pas du tout se reposer sur les gens de leur propre communauté lorsqu'ils arrivent dans un pays où ils ne connaissent personne. C'est pour cela qu'ils s'appuient surtout sur les réseaux de contact, comme l'explique Frédéric Chaumont.
Ben en fait, les demandeurs d'asile, ils voyagent avec leur histoire, leur tradition, leur milieu socioculturel. Et la demande d'asile pour l'orientation sexuelle, elle est minoritaire. Ce sont des gens qui appartiennent à une minorité. Et quand ils se retrouvent en Europe, et en France particulièrement, les gens qui sont déjà là sont les gens qui représentent la majorité dans leur pays. Ce sont des gens donc qui ont été élevés avec des préjugés homophobes parfois. Et on a effectivement des demandeurs d'asile qui sont rejetés par leur communauté ou qui se cachent. Quand la communauté les accueille et leur demande le motif de leur demande d'asile, les demandeurs d'asile qui sont homosexuels vont mentir parce qu'ils se font sentir en danger ou ils savent qu'ils seront exclus. Donc ils vont inventer une fausse demande d'asile liée à des persécutions politiques. Et évidemment, cette demande d'asile, elle est vouée à l'échec puisque l'administration française va prouver aisément qu'ils n'ont eu aucune activité politique Et comme ils auront eu peur de prendre la parole pour revendiquer ce qu'ils sont, s'ils n'ont pas la chance de trouver des gens qui leur expliquent qu'il faut qu'ils disent qu'ils demandent l'asile parce qu'ils ont été persécutés du fait de leur orientation sexuelle, ils vont à l'échec.
C'est ce que craignait Elisa, transsexuelle, en arrivant de Turquie en France. Nous la rencontrons à l'association Accept ST, qui travaille avec les migrants et les demandeurs d'asile LGBT.
J'ai quitté mon pays, la Turquie, à cause de mon orientation sexuelle. En fait, je suis homosexuelle. En Turquie, des personnes LGBT n'ont pas beaucoup de problèmes, comme en Iran, en autre pays. Mais bien sûr qu'il y a discrimination individuelle. Moi, j'ai eu problème individuel. Ma famille, ils sont des figures politiques. Mon père, il est politicien, il est député. Et ils sont très connus. Toujours, j'ai caché mon sexualité là-bas. J'ai eu beaucoup de problèmes à cause de mon père. Voilà.
Elisa, c'était un garçon qui ne voulait pas faire sa demande d'asile en France parce qu'il savait qu'en France, il y a une communauté turque très importante et il craignait justement la persécution dans le pays d'accueil. Effectivement, il était reconnu réfugié très vite par l'OFPRA. Il a su expliquer le climat d'homophobie qui était celui dans lequel il vivait en Turquie du fait de sa volonté de devenir femme. Il n'y a pas eu de problème de ce point de vue-là. Mais ce qui est intéressant dans son cas, c'est bien sa volonté à lui de fuir non seulement son pays, mais de fuir les communautés de compatriotes quand elles sont nombreuses et de se tenir à l'écart. Je me suis dit, maintenant, ce que je vois, c'est qu'il milite dans une association qui défend les droits des transsexuels. C'est un parcours qu'on ne peut que saluer.
Les demandes d'asile sont toujours individuelles. Elles se basent sur la Convention de Genève de 1951 qui définit le réfugié comme une personne qui craint d'être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou politique. Et c'est cette référence à l'appartenance à un groupe social qu'utilisent justement les demandeurs d'asile en raison de leur orientation sexuelle. Mais le plus difficile pour eux, c'est de raconter leur histoire intime aux officiers de protection de l'OFPRA, l'organisme qui octroie ou rejette les demandes d'asile en France. Des personnes qu'ils ne connaissent pas, comme l'explique Yao, réfugié camerounais, qui a obtenu son statut de réfugié au bout d'un an.
Ce qui est vraiment dur, c'est le fait qu'il soit amené à rentrer dans son intimité, d'aller au plus profond de soi, d'essayer de puiser des choses qu'on n'ose pas avouer à quiconque, et qu'on a amené sur le tas à le dire pour essayer d'étayer au mieux la situation qu'on a vécue et qu'on vit encore dans son pays. Ça ne me posait pas tant de soucis que ça, d'expliquer mon histoire. Et je n'avais pas le choix, en fait. C'est l'étape à franchir pour espérer un statut de réfugié, s'ouvrir au mieux, le plus possible, à l'officier de l'agent de l'OFPRA qu'on a en face de soi.
Quelle est la difficulté d'un demandeur d'asile LGBT par rapport à un autre ?
Qu'est-ce qui est plus difficile ?
C'est la parole qui est liée à l'intimité, je pense.
Frédéric Chaumont de l'ARDIS.
Un demandeur d'asile pour orientation sexuelle, il a vécu pendant des années, des dizaines d'années en se cachant, en ayant intégré le fait qu'il est différent, il est anormal, il est en étant persécuté parfois, et même très violemment. Il ne faut pas oublier que certains demandeurs d'asile, hommes ou femmes, sont violés, sont mutilés parce qu'ils sont homosexuels. Je ne parle pas des transsexuels qui connaissent des choses horribles. Et donc, il leur est très difficile de parler de cette intimité qui est complètement intériorisée, qui est refoulée à de parfaits inconnus. Surtout des inconnus qui sont là pour prononcer un jugement. Le statut ou non du réfugié, c'est un jugement. Ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite une relation de confiance. Nous, au sein des associations, nous pouvons avoir ce temps pour bâtir cette relation de confiance. Il est évident que l'administration n'a pas le temps et que malheureusement, trop souvent, les entretiens sont beaucoup trop courts et ne permettent pas aux demandeurs d'asile, ne lui donnent pas le temps nécessaire pour avoir confiance et pour au moins commencer à dire ce qui est en lui-même. Ils s'autocensurent par précaution, ils cachent leurs paroles, ils nous le disent. Les gens dans mon pays, quand ils me voient, quand ils voient comme je marche, quand ils voient comme je souris, ils savent que je suis homosexuel. Donc ils passent leur temps à s'autocensurer, à faire attention à la façon dont ils marchent, à la façon dont ils sourient, dont ils parlent. Et là, en une heure ou une heure et demie de temps devant un étranger, il va falloir que tout ça sorte le plus naturellement possible. C'est impossible.
Pour Seydou, ivoirien de 50 ans, issu d'une famille d'imams, rencontré au centre d'accueil des demandeurs d'asile, raconter cette intimité était encore plus difficile.
Franchement, c'est très, très, très difficile de parler. Même le premier jour, quand j'étais venu ici, bon, parce que je n'étais pas habitué à ça, bon, comme je t'ai dit, en Côte d'Ivoire, c'est caché. Parce que je suis homosexuel. Je viens d'une famille qui est triste musulmane. D'abord, je suis musulman. Ma famille, ce sont des imams. Après la mort de mon père, mon oncle, il a su que J'étais gay. Bon, il a essayé de me faire du mal. Bon, il m'a piqué un couteau partout, à Bijan. Mes frères, mes cousins qui étaient là-bas, bon, ils sont venus chez moi à la maison. Et bon, ils ont tout cassé. Après ça, je me cachais, je vivais en cachette, quoi. C'est là que je suis venu en France, ici.
C'est à Val-de-Fontenay, dans l'Est parisien, que les demandeurs d'asile doivent passer leur entretien auprès d'officiers à l'OFPRA. Mais parmi les 66 000 demandes en 2013, il est difficile de dire combien sont présentés au motif de l'orientation sexuelle. Il y en aurait de plus en plus. Pascal Brice, directeur général de l'OFPRA.
C'est évidemment difficilement quantifiable. C'est un besoin de protection qui existe. Et c'est un besoin de protection que nous devons identifier lorsque les personnes l'invoquent. Nous devons aussi nous assurer que c'est une réalité.
Et puis, il faut vérifier l'information, car de plus en plus de migrants, pour raisons économiques, utilisent l'argument de la persécution pour orientation sexuelle pour obtenir le statut de réfugié.
Ça fait partie des besoins de protection particulièrement difficiles à identifier. Ça relève de l'expertise qui est celle des officiers de protection de l'OFPRA, que d'identifier à travers le récit des demandeurs, en le croisant avec ce que nous savons de la situation dans leur pays d'origine sur la question de l'homosexualité, sur la répression éventuelle qui peut y avoir cours ou pas, à travers la prise en compte de l'état du droit, la Convention de Genève, l'évolution de la jurisprudence. C'est en croisant tout cela de manière extrêmement rigoureuse que nous pouvons identifier la réalité de l'orientation sexuelle des personnes, du besoin de protection qui peut être le leur et la réponse que nous devons y apporter lorsque, bien sûr, encore une fois, cette crainte en cas de retour dans le pays d'origine pour des raisons d'orientation sexuelle est pleinement avérée.
L'association Ardis accompagne les demandeurs d'asile dans leur démarche et les aide à constituer leur dossier, à écrire leur histoire. Selon Thomas Fouquet-Lapart de l'Ardis, les entretiens à l'OFPRA sont trop courts pour permettre aux demandeurs d'asile de se livrer dans leur intimité. Et les progrès à l'OFPRA sont encore trop timides.
La situation politique de la question homosexuelle au Cameroun étant suffisamment grave, il est rare que l'OFPRA rejette la demande d'asile d'une personne homosexuelle. Mais la question, c'est comment déterminer, dans les conditions actuelles d'une demande d'asile, comment déterminer qu'une personne est homosexuelle? Comment le prouver? Et qu'est-ce que ça veut dire que prouver l'homosexualité dans un entretien qui peut durer 45 minutes ou une heure? Évaluer, si j'ose dire, l'orientation sexuelle de quelqu'un, c'est quelque chose qui ne pourrait se faire que sur de la durée. Le temps, c'est pas quelque chose que l'OFPRA, comme toutes les administrations, a. Elle n'a pas le temps.
Difficile, en effet, de faire coïncider le temps administratif et le temps nécessaire pour raconter son histoire quand l'OFPRA traite plus de 350 demandes d'asile par jour. Mais selon Pascal Brice, l'OFPRA est plus attentif aujourd'hui aux demandes d'asile pour orientation sexuelle.
D'abord par la sensibilisation des officiers de protection, par également la mise en place d'outils d'appui à l'instruction pour les officiers de protection, que nous construisons d'ailleurs dans la concertation avec les associations qui, en France, aident les demandeurs d'asile victimes de persécutions pour des raisons d'orientation sexuelle, à travers des formations également. Tout ce qui nous permet de mettre les agents de l'OFPRA qui instruisent les demandes d'asile en situation d'être plus attentif. Je ne vous cache pas que ça fait partie de nos tâches difficiles. Établir l'orientation sexuelle de quelqu'un, c'est évidemment quelque chose de difficile. On est dans le registre de l'intime. Un entretien peut durer un peu moins d'une heure ou il peut durer plusieurs heures. Il peut te donner lieu à une reconvocation. C'est totalement en fonction de la demande qui est présentée. Pour des besoins qui sont très peu fondés, sur lesquels on se rend compte très vite que ça ne relève pas du droit d'asile, ça peut aller vite. Parfois, il faut du temps. C'est notamment le cas pour des personnes qui sont persécutées pour des raisons d'orientation sexuelle, parce que parler de sa sexualité, de l'intime, c'est difficile. À l'inverse, il faut que, pour la plupart des dossiers, nous prenions moins de temps, parce que nous devons réduire les délais d'instruction des demandes d'asile. Donc c'est dans cette équation-là que nous nous situons, et notamment sur ces questions d'orientation sexuelle.
Pour Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile, cette réforme en cours pour raccourcir ce temps d'attente des décisions de l'OFPRA comporte des dangers.
Le problème du raccourcissement des délais de procédure ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Et c'est toute l'ambiguïté dans laquelle nous sommes. Oui, il faut aller plus vite pour juger, mais il faut le faire dans la justice. Oui, il faut simplifier, mais là encore, il faut que ce soit processus de dignité. Et en même temps, nous avons des situations de plus en plus complexes à gérer, et avec moins d'argent. C'est un peu la quadrature du cercle.
En attendant la réponse de l'OFPRA, certains sont hébergés en centre d'accueil. Mais à Paris, il n'y a que 440 places pour 8000 demandes. Certains sont dans la rue ou dans des squats, comme ce fut le cas pour l'Ivoirien Seydou avant qu'il obtienne une place dans un centre d'hébergement. D'autres logent chez des particuliers grâce au réseau des associations comme Cynthia et Joël, les Ougandais arrivés en juin 2013. Ils ont tenu à présenter à Montreuil en février dernier le spectacle qui avait suscité leur arrestation puis leur fuite d'Ouganda. In the shadows of fear, oppression and silence. À 26 ans, Cynthia a subi des viols correctifs depuis l'âge de 16 ans et des attaques en raison de son homosexualité en Ouganda. Elle attend son statut de réfugiée en France, mais pour elle, vivre en dehors de son pays est un déchirement.
J'avais un travail, j'adorais mon pays, mais je ne pouvais pas rester. Ce que j'attends surtout ici, c'est une protection. Il n'y a rien de mieux que de se sentir en sécurité.
Et maintenant, vous vous sentez en sécurité ?
Oui, vraiment.
Les demandeurs d'asile pour leur orientation sexuelle, l'intimité persécutée, un grand reportage de Véronique Guémard, réalisation Marc Minatel.
Une enquête signée Véronique Guémard. Retrouvez tout au long de l'été les artistes en playlist RFI. Aujourd'hui, Quatuor Eben et Bernard Lavillier qui font partie de la sélection du mois de nos programmateurs et que l'on retrouve tout l'été en playlist RFI avec le titre O Gringo, extrait de l'album Brasil.
C'était à Rio, Janeiro. Une ampoule jaune pendait du plafond. Elle me demandait, avec son regard étrange, tu pars demain. Elle a fait glisser sa bague autour de ses doigts et poser ses deux mains tout près de mon cœur et demander des nouvelles d'ailleurs du monde entier. Son gringo quiero falar brasileiro. Meu teto é o céu, meu leite é o mar. Elle faisait Copacabana. Les vieux Allemands tristes et les marins sous. Elle venait du nord et croyait que la misère ici c'était moins dur. Pendant que les grands s'affrontent à coups de calibre, de whisky glacé dans les grands salons de Leblon ou d'Ipanema. Petit, tu peux crever. Son gringo que no fala brasileiro.
Ele é um gringo que no fala brasileiro.
Meu teto é o céu, meu leite é o mar.